On peut commencer ce matin, peut-être avec un mot de prière. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu as envoyé ton Fils. Et son Fils est mort sur la croix, payé nos péchés. C'est un privilège de, ce matin de regarder ta parole, que tu te révèles à nous à travers ces mots. Et on te remercie pour l'apôtre Paul qui les a écrits et qui les a présentés de cette façon ici. On te remercie pour ton Saint-Esprit qui l'a guidé et puis là pour nous instruire, pour nous guider. Et Seigneur, nous sommes bénis ce matin d'être ensemble et on veut te donner toute la gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Éphésiens 5, le passage que j'ai, c'est chapitre 5, verset 22 jusqu'à 33, mais je vais tricher. J'ai vu bien comment Mathieu a présenté le passage précédent la semaine passée. Si vous ne l'avez pas entendu, si vous n'étiez pas ici, c'est sur le site web. Je vous encourage, c'est bien. Mais comme moi j'ai taquiné Mathieu et je taquine Nicolas souvent, comme enseignant, comme prédicateur, on n'a jamais assez de temps. Il y a tellement d'informations, tellement de choses à nous instruire. Et on va commencer avec verset 21, le dernier verset que Matthieu avait la semaine passée. Il conclut cette introduction à Éphésiens 5 avec verset 21, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. » Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin que le sanctifié par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre corps, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un seul chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. C'est un passage qui est un peu abusé. C'est un passage qui est souvent mal compris. Pourtant, c'est tellement simple, c'est tellement de base, mais c'est un passage qui est en conflit. Conflit avec tout ce qu'on enseigne dans le monde. Je ne sais pas si vous constatez, mais souvent, et je dis souvent parce que je suis un peu naïf, mais la réalité, c'est que la parole de Dieu est toujours en conflit avec la sagesse du monde. Des fois, on veut être en paix et on fait toutes sortes de concessions dans la vie, mais il semble que la parole de Dieu, jamais, elle fait des concessions, quoi que ce soit. On lit la parole de Dieu et on est tenté de dire, « Mais moi, je vois. Mais moi, je pense. Moi, je crois. » Malheureusement, le monde ne vous appartenait pas. C'est pas à moi, ce monde ici. C'est à l'Éternel. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a planifié avant même la fondation de l'univers. Il a tout pondu. Il a tout préparé. C'est à lui. C'est à lui la gloire. Et c'est à lui la façon qu'il pense. Non, ça, c'est juste une condition à laquelle on peut prendre ce passage ce matin. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il y a un besoin véritable. Chaque fois qu'on ouvre les Écritures, qu'on lit les Écritures, Dieu est en train de nous parler de quelque chose. Cette semaine, Déjeuner des hommes, on a parlé des rois méchants en Juda. Et tout le long, en rentrant chez nous, j'avais une bonne demi-heure de route, j'ai pensé à ce passage-là. Puis, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire par Jojoquin et toutes ses parentés? On en a parlé. Et on a parlé long et large pour en arriver à savoir que Dieu veut que j'apprenne quelque chose. Il y a un besoin dans ma vie, dans le monde dans lequel je vis, où est-ce que ça s'applique. Les Écritures sont ici préservées, conservées, pour que chacun de nous on puisse le lire 2000, 3000 années après que ça a été écrit. Et pourtant, c'est incroyable, mais c'est vrai. Dieu l'a préparé, l'a conservé pour moi et pour vous. Et lorsqu'on lit les Écritures, c'est bien facile de dire, ce passage-là, c'est pour Richard. Ce verset-là, ça, c'est pour Jacques, celle-là. Non. Hey, c'est facile de faire ça, n'est-ce pas? Mais la réalité, c'est que quand on ouvre les Écritures, c'est pour nous. Dieu se révèle à nous. Que ce soit un petit prophète comme Osée, ou que ce soit une grande doctrine comme Romain, peu importe ce qu'on ouvre, c'est pour nous. Et je mets l'emphase là-dessus pour qu'on puisse regarder les Écritures avec une perspective divine et non personnelle. Moi, je sais qu'il y a des passages que j'aime beaucoup. Nick m'a donné un pour enseigner, et puis j'ai dit, « Ah, j'aime tellement ce passage-là! » Pourquoi? Parce qu'en plein milieu, c'est mon verset préféré! La semaine suivante, j'ai dit, « Ah, Dan, je me suis trompé, c'est pas ce passage-là. » Pour moi, j'étais convaincu que Dieu m'avait donné une opportunité d'enseigner ce verset que j'aime tellement. Mais non, moi, enseigner d'autres choses à place. Pourquoi? Parce que c'est tout bon. C'est tout utile. Même s'il y a des choses qu'on aime plus que d'autres et des choses qu'on n'aime pas. Moi, j'ai beaucoup de misère avec les passages dans l'Ancien Testament. J'ai beaucoup de misère avec la fin de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que c'est violent. Je ne sais pas vous autres, mais moi, j'ai énormément de problèmes avec la violence. Et de voir que Dieu a placé ça dans les Écritures, je me questionne souvent. Pourquoi? Why? Et je sais, c'est les jugements. Tu as raison. Mais c'est pas ça. C'est que moi, je préfère la douce tendresse, la gentillesse. Hein? C'est normal. On prend les Écritures pour bien comprendre ce que Dieu a placé pour nous. Et quand Dieu nous donne des versets spécifiques, c'est parce qu'il y a des raisons spécifiques. Et ça, il faut le comprendre. Now, le contexte du passage vient de ce qui précède. Ce que Matthieu a donné la semaine passée, tellement important à comprendre ce qu'on va voir ce matin. Et juste pour vous aider, chapitre 5, verset 1, commence avec ce verset. « Devenez donc les imitateurs de Danny, de Richard. » Non. « Soyons les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, et marchez dans la charité. » À l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. OK. La perspective de chapitre 5, c'est une perspective divine. On doit imiter Dieu. On devrait prendre l'exemple de Christ. Et c'est bien fun qu'il commence avec ça, mais c'est le thème avec tout. On a causé la semaine passée et ce qu'on va voir cette semaine, ce qu'on va voir la semaine prochaine en chapitre 6, tout vient de cette relation qu'on a avec Dieu et cette relation qu'on a avec Christ. Now, il faut comprendre qu'il donne un indice ici qui va nous aider à interpréter ce qui s'en vient. Il dit que Christ s'est donné quoi? Un sacrifice de bonne odeur. On parle ici de sacrifice. Il y a des choses qui s'en viennent que ce ne sera pas facile. OK? Si j'ai 100 000 $ et je vous donne 1 000, est-ce que c'est un sacrifice? Pas vraiment, hein? C'est juste un petit montant, 1%. c'est pas grave, c'est pas dur. J'arrive à l'église, on passe l'offrande, je fouille dans mes poches, je sors un billet et je mets dans l'offrande. C'est-tu difficile à faire? Non. Il n'y a aucune sueur, il n'y a pas de sang qui a coulé. Sacrifice coûte quelque chose. Et justement ici, l'exemple qu'on a, on a l'exemple de Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous. Alors, verset 17 nous a dit que c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Si on va être l'imitateur de Dieu, ça va aider énormément si on comprend c'est quoi sa volonté. Nous ne sommes pas des robots, OK? Les Écritures ne s'attendent pas que nous, on agisse en robotique. Je vais faire ce que la parole de Dieu me dit fidèlement. Sans avoir une compréhension, sans comprendre ce que Dieu veut, non, c'est pas ça qu'il veut. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a 66 livres dans la parole de Dieu. Il y en a plein d'informations pour qu'on puisse comprendre la volonté de Dieu, la motivation, pourquoi Dieu fait qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il demande de moi une obéissance dans tel domaine. C'est parce que Dieu a une raison, une volonté. Et Paul ici, il dit, c'est important qu'on comprenne la volonté de Dieu. Et verset 18, il donne un autre indice qui est très important, c'est que tu n'es pas capable de le faire tout seul, soyez rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas le faire sans que le Saint-Esprit vit en dedans de nous. Moi, je vois des collègues de travail qui ont des problèmes familiaux, toutes sortes de difficultés, des situations vraiment pénibles. Et la première chose que je pense, où est le Saint-Esprit? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Oui, par des efforts humains, on peut être gentil. Oui, par des efforts humains, on peut faire des bonnes choses, des bonnes actions. C'est faisable, le monde le fait. Mais la réalité, c'est que le conflit est là parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour amener, justement, la volonté de Dieu. Dans verset 21, nous donne un autre indice dans ce chapitre, la soumission, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Dieu. Alors, Richard m'a dit avant la classe, on soumet l'un les autres par l'amour. J'aimerais ça être capable de le faire. Et des fois, j'ai de la misère à le faire. Pourquoi? Parce que je m'aime plus que vous autres. C'est normal. J'ai besoin de Saint-Esprit pour me guider. J'ai besoin de la crainte du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, « Hey, je veux te bénir, mais je vais aussi te châtier si tu désobéis. » Et on a cette notion, on a parlé de ça, la conséquence du péché, ben, il y a un prix à payer. Il y a un prix physique, il y a un prix spirituel, un prix qu'on paye face à ceci. Et alors, nous, on est donné cette instruction de se soumettre les uns les autres. Et ce n'est pas évident et ce n'est pas facile. Alors, juste pour donner un petit aperçu technique, le mot grec ici pour soumission, l'apôtre Paul s'en sert souvent. Okay? C'est un mot que l'apôtre Paul aime beaucoup parce que pour lui, c'est essentiel dans les relations entre les frères et les sœurs. Il parle d'un mot qui s'appelle hupotasso. C'est une combinaison de deux mots grecs. Un veut dire de se mettre en ligne, de mettre en ordre. Est-ce que vous arrivez des fois chez vous et sur la tablette, il y a un paquet d'objets, vous les mettez en ligne, n'est-ce pas? Vous les tassez pour que quoi, toutes les tasses vertes soient à gauche, toutes les tasses rouges soient à droite, et vous organisez ça d'une façon que vous trouvez ça attrayant, n'est-ce pas? Moi, justement, je suis dans le ménage de mes livres, et j'ai des livres qui sont mêlés, parce que vite, vite, on ramasse, on place ça dans les étagères, mais non, non, c'est pas leur place. On a des livres qui vont dans certaines sections, on a d'autres livres, Christian et moi, on aime des livres, on a beaucoup, on n'a pas assez d'étagères, et on les place, on les organise, on les met en ligne. OK? Tasso. Hupo veut dire avec autorité. Il y a une organisation naturelle, normale, qu'on fait de manière que vous faites les choses chez vous, vous placez. Mon beau-frère est venu chez nous en voyage et il avait la chambre des invités. Puis Christiane est allée mettre des choses dans la chambre des invités. Puis elle a crié à toute tête, « Les enfants, viens ici! » Et puis les enfants sont arrivés, puis dans la chambre des invités, les souliers de mon beau-frère étaient placés en ordre. Les lacets à l'intérieur des souliers, ex-militaire, OK? Hein? Puis Christiane a dit, c'est comme ça que tu devras placer les souliers chez vous. Dans les garde-robes, que ce soit organisé. Vous courez parce que vous cherchez une espadrille parce qu'il t'en manque un. Pourquoi vous ne les avez pas serrés à la bonne place? Hey, vous comprenez l'idée de mettre en ordre, mais avec autorité, avec une décision de suivre une règle, de suivre une autorité quelque part. Hupotasso, terme militaire, les Grecs se servaient ça pour faire référence à une gang de soldats qui font leurs différentes tâches, mais quand le commandant il dit « en ligne », tout le monde se met en ligne, en place, par leur rang, chacun dans leur organisation. Et c'est un terme que Paul se sert pour dire « voici la manière qu'on devrait travailler ensemble ». On travaille en ordre, hein, bien structuré, mais aussi en termes de suivre une direction. Alors, on a ce mot qui nous aide à comprendre ce qui s'en vient. Now, il faut comprendre, et je vais prendre un peu plus de temps ici, de donner la perspective divine. Nous, on parle souvent de la doctrine de la Trinité. Père, Fils, et Saint-Esprit. Et moi, je me demande, comme un enfant pécheur, est-ce que les trois sont toujours d'accord? Moi, je suis élevé avec deux frères et deux sœurs, et je peux te dire qu'il y avait des débats chez nous, des conversations vives, on s'approchait un peu, des coups de poing, des coups de pied. On n'était pas tout le temps d'accord, nous autres, la gang. Hein? C'était drôle parce que quand mon père était là, il n'y en avait plus de chicane. Pourquoi? Alors, mon père va nous punir s'il nous voit chicaner. Et souvent, on était là en train de dire oui, papa. Hein? On s'organisait, on suivait l'exemple. L'exemple, Jésus est dans le jardin de Gethsémané, il s'en va à la croix, il le sait très très bien, il sait qu'est-ce qu'il va subir, et qu'est-ce qu'il dit? Non, ta volonté. Non, ma volonté, mais ta volonté. Il y a une soumission. Même dans la Trinité, il existe une soumission, une ordre, et il remplit, et c'est très important ce matin, il remplit des rôles spécifiques. OK, mon petit-fils, quand il va à 4 heures du matin au travail, il est en train de suivre une formation parce qu'il veut avoir le rôle de pompier. Et un pompier, ça a besoin d'avoir une discipline, un ordre. Il remplit ce rôle. Je connais mon petit-fils. Il n'y a pas de discipline dans sa vie. Il n'y a pas d'ordre dans sa vie. Tout traîne. Mais pas à l'ouvrage. Oh non! Chaque chose, chaque personne remplit une fonction, remplit un rôle. C'est bien défini comme un rôle. Ça ne change pas le caractère de mon petit-fils. Je l'aime énormément. Et moi, je sais très, très bien ce qui arrive. C'est normal quand on veut remplir le rôle. Et dans la Trinité, on a trois personnes en un et ils savent comment travailler ensemble, comment accomplir ce qu'ils ont planifié dès le commencement. Now, il faut comprendre aussi que quand on parle de se soumettre, il y a une soumission forcée. Ça se fait avec des chaînes, des menottes, des fouettes, des bâtons. On peut faire chercher un comportement désiré de la part de quelqu'un avec force, n'est-ce pas? Mais la soumission, le terme que Paul s'en sert, c'est un terme qui veut dire volontaire. On le fait parce que je suis motivé. Et on voit le verset 21 de ce chapitre. Et on se soumet par la crainte de Christ. On veut plaire notre Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait? On se met en ordre, on se met en ligne, on fait ce qu'il nous demande, on remplit le rôle qu'il nous donne, chacun de nous. Et ça, c'est une volontaire. Si nous voulons obéir à Dieu, nous devons comprendre la volonté de Dieu. Alors, c'est quoi la volonté de Dieu? Je sais qu'on pourrait décrire ça de toute façon, mais il y a un mot qui décrit exactement ce que Dieu s'attend. Qu'est-ce que Dieu s'attend? Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut la perfection. Quand il a créé l'univers, il avait-tu des choses qui ne marchaient pas? Une planète qui n'était pas à sa place? Une étoile qui n'était pas où il voulait? Est-ce que dans la création, il y avait un animal? Est-ce qu'il y avait des plantes qui ne faisaient pas ce qu'il voulait? Je ne sais pas vous autres, là, mais nous, on avait un jardin, et puis ce qu'on faisait, on triait notre jardin. On passait à travers, puis on dit, « Ouais, la carotte, il peut rester, mais la mauvaise herbe à côté débarque. Hein? » Et on faisait ça dans toutes les rangées. Qu'est-ce qu'on fait? On trie. Pourquoi? Parce que c'est pas parfait. Nous, comme Dieu, on veut l'avoir parfait. Et Dieu veut la perfection. Et déjà, je trouve handicapé. Je ne sais pas vous autres, mais il manque quelque chose dans ma vie, c'est la perfection. Moi, je suis pécheur. Je ne sais pas vous autres, vous êtes pécheurs aussi? On a tous ce défi, n'est-ce pas? On a ce défi. On sait que Dieu cherche la perfection. Dieu veut qu'on ait des relations sans conflit. C'est incroyable comment est-ce que les gens peuvent être agressifs. Et ce n'est pas nécessaire. On peut être très gentil l'un envers l'autre. Il veut que nous, on soit, qu'on n'a pas de dispute. Des différences, on en a tous. Et Sam et moi, on a une énorme difficulté à décider qu'est-ce qu'on va manger. Pourquoi? Parce qu'on est deux personnes. Des fois, elle veut manger quelque chose, moi je veux manger d'autres choses. Et on en parle, on discute, mais on ne fait pas une dispute. On ne va pas claquer la table et dire « Non, c'est pas ça que je voulais. » Il n'y a pas de besoin de dispute. Dieu veut qu'on soit ensemble. Pas de colère. Pas de souffrance. On cherche quoi la perfection? Paix et bonheur. Et ça implique des choses tellement essentielles. Un, satisfaction. Est-ce que vous avez jamais fait des choses et vous avez réussi et vous regardez en arrière et vous dites « c'est bien ». Ça peut être un travaux qu'on a fait pour l'école autrefois, ou peut-être c'était quelque chose qu'on a fait à l'ouvrage, peut-être c'est quelque chose à la maison qu'on a réparé, puis ça ne coule plus, puis on est vraiment fier de faire que ça marche. Satisfaction, ça c'est ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu a dit à la fin de chaque jour dans la création? Hein, Dieu a dit, Dieu a vu que c'est bien. Dieu est en train de créer des choses, une étape à la fois, et à chaque étape, il dit quoi? Wow, c'est guidou, c'est bien, on est fier, on est satisfait. Satisfaction. On veut des relations et on est des êtres émotionnels, n'est-ce pas? On aime ça, l'affection. Et ça, c'est une autre chose. Quelqu'un qui nous aime, quelqu'un à qui nous, on peut aimer, c'est facile de faire des choses ensemble. Et c'est cette affection. Une vie remplie de gratitude. On remercie le Seigneur pour chaque chose qui nous arrive. Bien et mal, chaque fois qu'on a une maladie ou chaque fois qu'on a une difficulté, c'est une opportunité pour nous à mettre notre confiance dans le Seigneur. C'est très important à comprendre que Dieu cherche ceci. Notre vie doit déborder de louange envers un Créateur miséricordieux. Et ça, là, c'est pas évident. Je sais pas, vous autres, des fois, est-ce que vous choquez? Moi, des fois, je viens un peu impatient. C'est pas un temps pour louange. C'est pas un temps pour chanter des cantiques. Mais je devrais, n'est-ce pas? Eh oui, parce que c'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu cherche, c'est la perfection. OK. Ça, c'est vraiment toutes les conditions pour lesquelles on peut se prendre le temps de saisir ce qu'on s'en vient. Alors, on tourne dans les Écritures, mais moi, je triche. Moi, je retourne à Genèse chapitre 2. Pourquoi? Parce que de Genèse 1 jusqu'à la fin de Genèse 2, nous avons la perfection. Si vous voulez voir ce que Dieu pense, ça c'est la meilleure place à aller. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il a créé. C'est comme ça qu'il a voulu. Et nous, aujourd'hui, on vit dans un monde complètement différent. Mais dans ce temps-là, les choses étaient parfaites. Et verset 18 du chapitre 2 de Genèse, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit tout seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Ça, je comprends ça. Et je le vois. Mais il fait quelque chose à verset 19. Il forme les animaux de la terre et des champs et tous les oiseaux du ciel et les fait venir vers l'homme. Pourquoi on a cette récit inséré dans plein milieu du problème de l'homme qui est seul? Bien, les animaux. Et vous voyez les gens aujourd'hui, ils ont des petits chats, ils ont des petits chiens. De temps en temps, il y a quelqu'un qui a un petit cochon. Il y a des gens, ils ont des animaux. Les animaux, c'est fun. On peut leur parler, ils ne comprennent rien, mais c'est pas grave. Ils sont là, hein, le cœur ils battent de gauche à droite. On aime ça, les animaux, n'est-ce pas? Et Dieu pose ici, est-ce qu'il y en a un ici qui peut faire l'affaire pour l'homme? Et il donne l'exemple, il les amène devant Adam, Adam lui donne les noms, mais il dit quoi? Il n'en a pas un, verset 20, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est drôle, moi, quand je bricole, des fois, j'ai besoin d'un troisième main. C'est fun d'appeler le chien, puis qu'il vienne, puis qu'il tient le morceau. Non, il ne tient pas. Mais Christiane, hey, si elle est libre, hey, une autre paire de mains, ça peut aider. On va faire ça ensemble. C'est un vrai aide. Même chose, des fois, elle va me dire, hey, viens m'aider, j'ai besoin de serrer la nourriture en bas. Peux-tu tenir la porte? Peux-tu ouvrir ici? Peux-tu placer? Hey, on travaille ensemble. On s'entraide. C'est bon, ça. C'est bien mieux que d'être tout seul. Et on a cette image. Alors, verset 21. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et qui s'endormit, il a pris un de ses côtes et referma la chair de sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme et l'amenait vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, c'est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront un seul chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus. Ils n'avaient point d'honte. So Dieu prend une côte d'Adam. Pourtant, il aurait pu simplement prendre la poussière comme il a fait Adam. D'autres poussières, peu poussière, poussière. Mais il y a un message ici. Il y a un message. Pourquoi la côte de l'homme?
Parce qu'ils vont devenir une seule chair.
Ils vont être une seule chair. Ils viennent de la même chair. Ils vont devenir une seule chair. C'est la façon de visualiser la relation entre le mari et la femme très importante. Et encore, je répète, je radote, c'est la perfection. C'est ça que Dieu a planifié. C'est ça que Dieu veut. J'ai déjà entendu un prédicateur enseigner sur ce passage en disant « La parole de Dieu dit qu'on doit être marié. » Puis, tu aurais dû voir comment est-ce que les gens ont réagi, hein? Ça riait un peu vite. Mais il a dit « C'est vrai, la perfection de Dieu, c'est l'homme avec sa femme. Un avec l'autre, on vit ensemble et on s'aide ensemble, on travaille ensemble. On est fait de la même chair. » On a fait de la même eau. Dans la perfection continue jusqu'à chapitre 3. Qu'est-ce qui arrive à chapitre 3? Tout le monde le sait. Vous avez été à l'école du dimanche? Vous avez entendu l'histoire? Qu'est-ce qui arrive à chapitre 3? La perfection est brisée quand Ève désobéit et elle prend le fruit.
C'est la partie amère de la vie.
Mais elle n'est pas seule dans cette situation. Et on va voir un peu. Le péché d'Ève, c'était quoi? De prendre le fruit? Oui. Mais avant de prendre le fruit, elle a fait quelque chose, ou disons qu'elle n'a pas fait quelque chose qu'elle était censée de faire. Et c'est d'en partager avec son mari. Chérie, Adam, il y a un serpent qui me parle ici, puis il me dit qu'on devrait être capable de manger ce fruit-là. semble ne pas avoir aucune collaboration. Oh, on a laissé de côté la perfection que Dieu avait dit, c'est qu'on est ensemble, et là, elle a décidé de faire à sa tête. Et c'est intéressant, le péché d'Adam, il a mangé le fruit lui aussi, n'est-ce pas? Mais c'est pas ça que Dieu dit. Dieu dit à l'homme quoi? Il dit, « Parce que tu as écouté ta femme. » Moi, je trouve ça incroyable. Ça veut dire que nous, les hommes, on ne devrait pas écouter nos femmes? C'est que nous, on devrait servir de notre cerveau et dire, « Non, 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 chérie, Dieu a dit, on ne mange pas, on obéit à Dieu. » On a un rôle à faire, on a un rôle à remplir comme mari. Okay? Et c'est très important de comprendre d'où est venu le péché. Now, la punition, c'est drôle, la punition pour les dames, c'est la souffrance, la douleur d'enfantement. Je n'ai jamais accouché, je ne peux pas en témoigner. Chaque fois qu'on parle de ça, moi d'habitude, je me tasse et je laisse mon épouse décrire la douleur. La douleur lors de notre deuxième enfant, j'étais là à l'accouchement et mon épouse m'a pris par la gorge. Il m'a dit, pourquoi tu m'as pas fait penser à toute la douleur quand on a eu Nicolas? Et moi j'ai dit, ben moi j'ai pas senti de douleur, mais maintenant j'en ai un petit coup. Hey, c'est une punition. Dieu, dans sa perfection, je suis sûr qu'il voyait l'accouchement comme étant une expérience agréable, non douloureux. Je suis sûr que Dieu avait un plan autre, mais ici, il a dit quoi? Non, à cause du péché, on va souffrir. Et ensuite, il dit, tes désirs porteront sur ton, vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ah, mais c'est toute une conséquence qu'on donne à la femme, n'est-ce pas? Pourquoi ça? Oui, hein? Avant, on était naïfs. Ouais. Mais ici, on a cette punition qui est donnée. Et c'est littéralement, on comprend que le péché rentre dans les relations et cause des conflits. Okay? Juste pour comprendre cela. Et d'ailleurs, c'est important parce que depuis ce temps-là, on a eu quoi? On a eu les meurtres, Genèse 4, et on a toutes sortes d'autres péchés. On a la polygamie. Hey, moi, je ne comprends pas comment un gars peut endurer plus qu'une femme. Et qu'une femme peut endurer d'être dans un... Non, non. Dieu a fait la perfection, c'est le mari et sa femme. Et c'est le bonheur. Et non, dans Genèse 5, on voit ça. Et on continue. Jusqu'à on arrive à Genèse chapitre 6, qu'est-ce qui arrive? Dieu dit, j'en ai ras-le-bol, comme les Français diraient. Hein? Je vais toutes les éliminer, sauf 8. Hein? Et ces 8 sont pécheurs eux aussi. Mais c'est rendu, le péché était tellement grave. On avait tous les péchés. Et en Genèse, là, on a un inventaire aussi complet jusqu'à Genèse 50. Toutes les choses imaginables. Et ça vient de cela. La question ici, c'est que on voit dans le passage que verset 22, Paul donne un rôle que la femme doit remplir. Et c'est drôle parce que si on retourne à Genèse, c'est le même rôle. Femme, soyez soumis à vos maris. Comme au Seigneur, vous êtes avec lui. Et le concept, c'est on se met en ordre et on suit une direction et on va faire le travail. Verset 23, il nous donne la raison. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. I know, les femmes, je sais qu'est-ce que vous pensez actuellement. Christ est parfait, mais pas mon mari. Et vous avez raison. Et c'est important à comprendre que nous, on est dans une situation où on cherche la perfection, mais on ne l'a pas. Et d'ailleurs, on a souvent besoin d'un petit rappel. Chérie, as-tu pensé? Chérie, doit-on faire ceci? On a une ouverture de communication, de partage. Ça ne dit pas ici qu'on n'a pas le droit de dire un mot, mais ça dit qu'on se met ensemble en ligne. Et ça, c'est tellement important de voir ici. que Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même, l'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Alors, depuis la chute jusqu'à aujourd'hui, les relations entre épouse et époux sont brisées, sont dysfonctionnelles à cause du péché. Pas parce qu'une femme est inférieure ou un homme est supérieur ou l'inverse. Moi, depuis mon adolescence, j'entends que ça. On est égal. Non. On peut-tu faire la même chose? Sure. Mais est-ce qu'on est vraiment égal? Non. On est différent. Et c'est important. Moi, j'ai deux frères. Les deux frères, il n'y en a pas un qui est comme moi. Les deux frères sont chacun différents. Chacun des différents caractères, chacun des différents talents et des différentes habilités. Mes deux sœurs, même chose, ne sont pas pareils. Ils ont des capacités, des habilités. Et d'ailleurs, je remercie le Seigneur que j'étais dans une famille où on avait une variété, une diversité, que Dieu nous a mis ensemble pour qu'on soit un encouragement, une aide. Et je réalise ici que souvent, les gens prennent ce texte hors de contexte et ils disent que ce texte veut dire qu'on devrait abuser des femmes. C'est moi qui ai la bosse. Non, c'est pas ça que ça dit. Ça dit de soumettre comme Christ. Christ est définitivement le chef de l'Église. C'est lui qui est en charge. C'est lui qui s'occupe de nous. C'est lui qui est responsable. Et moi, je suis capable de me mettre à genoux et lui demander des choses. Et il m'écoute. Et on se parle. Mais le rôle que Dieu désire que la femme prenne, c'est décrit ici. C'est qu'on se mette en ligne. Now, je dis ça, mais aussi il faut que je passe de l'autre côté de la médaille. Verset 25. Marie, aimez vos femmes. Tu vois ici, ça ne dit pas Marie, dominez sur vos femmes. Il dit aimez vos femmes. Parce que motivé par amour, on est capable de faire des choses assez miraculeuses. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme aime lui-même, car jamais personne n'a haï son propre chair. Mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Le rôle de l'homme est défini, okay, par l'amour. C'est d'aimer sa femme. Now, le mot amour ici, c'est le mot agapo. Now, agapo, ça veut dire quoi? C'est un amour sacrificiel, un amour divin. Est-ce que on comprend, là? C'est non érotique, c'est pas sexuel. Paul ne parle pas ici des relations sexuelles. Il ne parle pas ici de l'amour fraternel. Moi, j'aime du monde. Est-ce que vous aimez le monde? Vous avez des amis? Ah oui, on se tient ensemble, c'est fun. Mais c'est pas cet amour-là non plus. C'est un amour sacrificiel. Et ça, c'est très important, c'est profond. Un rôle où l'homme se donne pour rencontrer les besoins de sa femme. Pas tous ses désirs, pas des affaires superficielles. On parle ici de bien remplir les besoins. Non. Ça nous ramène à notre texte, le chapitre 5. On doit comprendre la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Si on va l'obéir. Il faut comprendre nos épouses si on va être capable de vraiment les aimer. Et ça, c'est une des tâches que je trouvais la plus difficile. Comment comprendre quelqu'un qui ne pense pas comme moi? Comment comprendre quelqu'un qui a des besoins qui sont différents que le mien? Moi, il y a certaines choses que je m'en fous. Mais mon épouse, elle a des besoins, elle a des choses. Il faut être sensible, il faut apprendre. Comment est-ce qu'on va le faire? On vit ensemble. Moi, j'ai sorti avec Christiane pendant 3 ans. Et je remercie le Seigneur parce que dans 3 ans, j'ai pu voir Christiane dans bien des différentes situations et le voir. Et justement, cette semaine, je lui faisais un compliment parce que depuis que je connais Christiane, un des éléments que je trouve le plus intéressant, C'est la façon qu'elle réagit à tout. Et souvent, quand je le taquine, elle va réagir, soit avec un rire, ou ça, soit des fois un coup de poing. Et j'aime ça parce que c'est elle, ça. C'est ça que j'ai aimé quand j'ai sorti avec Christian. C'est qu'elle voyait quelque chose arriver, puis elle dit « Hey, check ça! » Ou elle voyait quelque chose qui était vraiment dégueulasse. « Oh, c'est ton méchant! » J'aime ça. Pourquoi? Parce que je le comprends. Et dans un sens, il y a tellement de personnes que je vois autour de moi, on dit allô, on dit bonjour, on se voit souvent, mais je n'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils pensent. Je n'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils font. Mais mon épouse, c'est pas pareil. Mon épouse, je lui dois tout. Et elle est spéciale. Il faut le comprendre pour être capable de l'aimer. Quand on sait très bien, je vous donne un exemple flagrant, j'en parle souvent, Christiane le sait très bien. Mon épouse, elle haït ça, conduire une auto. Dieu lui a donné un mari qui adore ça, conduire une auto. Donc, quand Christiane a dit, est-ce qu'on peut aller? Sure! Où est-ce que c'est? Ah, je ne sais pas, on va le trouver. Elle, ça le rassure qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Qu'elle n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que c'est un des besoins que Christiane a besoin, d'être rassurée. Et de chacun de nous, lorsqu'on a un époux, une épouse, on doit prendre le temps de le comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu a pas dit aux femmes de aimer vos maris et ensuite les soumettre? Pourquoi Paul a dit ça? Et ça, c'était une des questions que moi j'avais. Parce que littéralement, on s'attend à une soumission mutuelle. Un des meilleurs documents que j'ai lu, écrit par John MacArthur, c'était la soumission mutuelle dans le mariage. Et l'idée, c'est que, hey, on est ensemble. On travaille ensemble. On se donne l'un à l'autre. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit à la femme, aimez vos maris? Moi, je pense que c'est parce que les femmes aiment de nature. C'est dans leur ADN. Il a cette nature d'aimer. Ils ont un mari qui fait des choses, bien, on aime ça. Un mari qui nous donne des cadeaux, on aime ça. Un mari qui nous dit des bonnes choses, on aime ça. C'est naturel. Nous, les hommes, ça passe par-dessus, right? Dans une oreille, il se sort de l'autre, puis on est souvent indifférent lorsque notre épouse est beaucoup plus sensible. C'est des exemples qu'on trouve souvent chez les hommes et les femmes. Le rôle de l'homme, c'est de se forcer à l'aimer. Pourquoi? Parce que des fois, mesdames, bouchez les oreilles, OK? Des fois, les femmes ne sont pas si aimables que ça. OK? Chez nous, on appelle ça le syndrome des bigoudis. On marie une femme qui est tellement jolie, tellement belle, elle sent bon. On se marie à un mariage, une cérémonie et dans une robe superbe. Et on a un temps fantastique ensemble. Mais le lendemain matin, on se lève et elle a des bigoudis dans les cheveux. On dit, what happened? Oh my. Moi, j'ai l'impression que des fois, on est obligé de se forcer, comme Christ s'est forcé pour nous aimer quand on était encore pécheurs, puis il dit, je vais l'aimer. C'est un choix qu'on fait comme homme, d'aimer son épouse, peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qu'il dit, si elle brûle les toasts, c'est pas grave, je l'aime encore. Est-ce qu'on est d'accord? Et tu vois un peu l'orientation l'apôtre Paul, il prend. Il prend les caractéristiques qui sont plus naturelles et de dire quoi? On va surmonter ces choses-là parce qu'on vise un objectif qui est la perfection que Dieu avait stipulé dans chapitre 2 de Genèse. Il dit ici, il donne un rôle à l'homme et dans un cadre où ce qu'un homme doit chercher ce qui est bien pour son épouse. Des fois, c'est pas évident, mais on doit chercher le bien malgré ce qu'elle pense. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi et mon épouse, on a eu souvent des conversations et j'essaie de lui convaincre de certaines choses. Et j'ai constaté très, très tôt dans le mariage que parler, ça ne vaut pas grand-chose. Des fois, il faut lui montrer. Et des choses qui arrivent où, après un certain temps, Christiane m'a dit, « Hey, j'ai pas compris ça. » Là, je le vois et, « Hey, c'est tellement bien. » Oui, mais tu ne le voyais pas. Et c'est ma job de communiquer d'une façon différente pour que tu puisses voir où est-ce qu'on s'en va avec telle affaire. Une des choses, Christian et moi, on parle souvent de ça. Dans le mariage, notre première grande différence, c'était quoi? L'argent. Christian pensait on devrait faire certaines choses avec l'argent, moi, je pensais à d'autres choses. Et ça a pris des expériences ensemble pour être capable. Découvrir que Christian, c'est une personne qui aime le détail, elle travaille bien le détail. On fait un budget et elle est capable de suivre le budget vraiment proche. Mais elle avait des difficultés à faire certaines décisions. Mais on fait un budget annuel. Est-ce que vous avez fait ça? On prend l'an au complet et on détermine. Et quand Christiane a vu le budget annuel, elle a dit, ben, hey, c'est bien logique, je sais quoi faire. On a un plan, on peut le suivre. Moi, je m'en fous des détails parce que je sais que ça m'occupe tellement bien. Mais des fois, il faut lui dire, hey, voici où est-ce qu'on va, voici ce qu'on pense, voici où est-ce qu'on va être dans 2 ans, 3 ans, voici notre situation. Et ça nous facilite la conversation. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe des besoins. Et on s'occupe des besoins de l'un et de l'autre. Ah, tellement important de réaliser l'importance de aimer sa douce et tendre moitié. Et ce qui est important, Paul donne aux hommes 2 comparaisons. Je veux juste terminer avec ces items-là. Il compare, comme la femme, le mari, c'est le chef de l'Église, et Paul dit, comme Christ a aimé l'Église, ben c'est la même façon qu'on doit aimer notre épouse. Et là, c'est un temps où ce qu'on devrait regarder nos vies à nous et dire, est-ce que je suis comme le Seigneur Jésus? Qu'est-ce que Christ a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour moi? La sanctification après le salut? Il m'amène à un endroit encore plus merveilleux, plus glorieux. Moi, j'ai hâte qu'il revienne. J'ai hâte de mourir parce que je sais où est-ce que je m'en vais. Ça va être tellement plus fantastique. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, là. Ce n'est pas parce que j'aime pas ce que Dieu m'a donné ici sur la terre. Mais je sais qu'au ciel, ça va être encore meilleur. Je suis capable de voir ceci et je sais que c'est Christ qui a préparé une place pour moi. Hein? Christ a aimé l'Église et moi, je dois aimer mon épouse avec ce même amour. Et la deuxième comparaison, c'est comme on aime notre propre corps. Qui ici n'aime pas son corps? Un de mes enfants m'a dit, un enfant adulte, a dit, « Papa, je m'aime. » En mangeant quelque chose de délicieux. Hein? Et moi, j'ai dit, « Pourquoi tu as choisi ça? » « Parce que je m'aime. Ça va être bon. Ça va goûter bon. Ça va être... » On s'aime, n'est-ce pas? Si on a un écharpe, c'est quoi notre préoccupation qu'on fait? On veut l'enlever puis ça presse, n'est-ce pas? Si on a une blessure, j'ai un ami qui a souffert énormément cette semaine, et moi, la première question que j'ai dit, t'es-tu allé à l'urgence? Et il m'a dit non. J'ai dit, il faut que tu ailles à l'urgence. Son père est médecin. Et alors, il dit, je vais aller parler avec mon père. Il parle avec ton père, hein, mais il faut que tu ailles à l'urgence. 2 jours plus tard, je lui contacte et je dis, puis, qu'est-ce que ton père a dit? Mon père m'a dit d'aller à l'urgence. Il faut s'occuper de la blessure. La blessure est grave. C'est important, rien ou X. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y en a. Il faut soigner. Nous, aujourd'hui, on est bénis. On a toutes sortes de façons de s'occuper d'une main. Moi, j'ai une réaction à cause de diabète où j'ai le pot qui me pique. Hein? Et Christian avait trouvé un produit que j'applique et ça marche. Et c'est à moi, je ne partage pas. Pourquoi? C'est pour mon bien. Quand ça me gratte, j'ai quoi aujourd'hui? Je m'aime mon corps, je m'en occupe de mon corps, je fais ce que je dois faire pour mon corps. Cette notion de s'aimer son épouse comme son propre corps, elle a un besoin, on s'en occupe. On prend soin de ce que Dieu nous donne. Verset 32, on termine ici avec un verset qui est très important, un point que je trouve qu'on néglige souvent, et en négligeant, on manque l'objectif de ce passage. Verset 32. « Ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » un mystère, un terme biblique, mystère. C'est quoi mystère? C'est des choses cachées qui sont révélées. OK? C'est quelque chose qui est secret et qui maintenant est exposé. Et ce n'est pas les relations des hommes et des femmes duquel Paul parle ici, c'est la relation avec Christ et l'Église. Il faut comprendre que la perfection dans Genèse 2, qui est l'objectif qu'on doit rechercher dans nos foyers, qu'on devrait rechercher dans nos relations, soyons soumis les uns les autres. L'idée ici, c'est qu'on parle d'une image importante qui nous aide à comprendre qui est Dieu, comment Dieu pense, c'est quoi la volonté de Dieu. L'image qu'on a, c'est Christ et l'Église. Et ce que nous sommes en mari et femme, ce sont des témoins de la volonté de Dieu. Nous démontrons qu'est-ce que Dieu veut à tout le monde autour de nous qui n'ont aucune idée, qui n'ont aucune intention de courir après la volonté de Dieu. Mais nous, on est devant leur face. Souvent, les gens avec qui j'ai travaillé à travers les années posaient des questions sur moi et Christian. Comment se fait que vous êtes comme ça? Et moi, je leur dis tout ça, mais Dieu nous a mis ensemble. Dieu nous a donné son Fils, payé nos péchés. Nous, on a cette vision de qui nous sommes par rapport à ce que Dieu a fait pour nous. Et là, on est capable de leur dire, voici ce que Dieu donne à nous, la grâce, la compréhension, la discussion, l'ouverture de parler franchement l'un avec l'autre, en sachant qu'on ne sera pas choqué avec l'un ou choqué avec l'autre. Et nous, moi, Christiane, on a souvent des discussions assez vives, n'est-ce pas, chérie?
On se pardonne.
On se pardonne, hey. T'es excité, t'es énervé, c'est normal. Moi, je suis calme. Mais vous voyez la situation? Les païens n'ont pas ça. Ils sont pleins d'amertume. Est-ce que vous avez jamais entendu parler des divorces? All right? C'est assez courant. Et il y a un film que j'ai vu que je trouvais ça drôle, mais triste, qui s'appelle « La guerre des divorces ». Et littéralement, comment est-ce qu'on peut se faire le tort l'un envers l'autre? Et c'était méchant, c'était malin. C'est pas ça la perfection que Dieu désire. Dieu désire les relations comme Christ avec son Église. Et c'est ça que Dieu...
C'est un cancer qui nous brûle à l'intérieur.
Comme ça, ça nous prend, ça nous ronge. Et ça, c'est important de comprendre ceci. Dieu, c'est pas ça qu'il voulait. Et nous sommes l'Église. Nous sommes quelque chose qui ne se trouvait pas dans l'Ancien Testament. Tu ne trouves pas l'Église nulle part. Pas comme on a dans le Nouveau Testament, c'est révélé à nous. Le mystère est là pour nous. Nous sommes... on n'est pas Israël. Il y a des gens qui essaient de dire que l'Église, c'est bien Israël. On est complètement, radicalement différent. Dieu, pour Israël, était un Dieu à qui on doit l'obéissance. Et nous, on est les enfants de Dieu. Nous regardons Dieu avec obéissance, oui, parce que quoi? On est rempli de gratitude pour ce qu'il a fait pour nous. Il a pardonné nos péchés. Et il nous a mis dans son Église, ensemble. Romains 8, verset 17 nous dit, « Or, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » C'est ça l'Église. On est là pour lui donner honneur, lui donner gloire. Le modèle parfait que Dieu veut pour nous, nous comprenions sa volonté. Comprendre la relation entre le Père et le Fils et l'Église. D'aimer sa femme et de respecter son mari, verset 33. C'est ça que Dieu recherche. C'est ça le résultat que Dieu recherche. Et nous, on a ce privilège. Et à travers cela, nous, on peut donner gloire à Dieu le Père et à son Fils. En vivant comme Dieu, nous proclamons sa bonté, sa paix, son miséricorde à tout le monde autour de nous. C'est incroyable quel point d'ouverture d'inviter les gens chez vous, de prendre un repas. Et la première chose qu'on fait, on remercie le Seigneur pour nous mettre ensemble, pour nous donner ce repas délicieux, pour qu'on puisse le partager et de remercier le Seigneur. Et les gens vont nous garder avec le quoi? Bouche bée. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la perfection de Dieu, mais ils vont le voir. Prions. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole qui est devant nous. Seigneur, il y a tellement de bonnes choses ici à mettre en pratique dans nos vies, dans nos témoignages. Père éternel, tu nous donnes une opportunité de rechercher la perfection que tu as créée au commencement. Quel honneur, quel privilège. Seigneur, on demande que tu nous donnes des opportunités d'en parler cette semaine. Et aide-nous à mettre ça en pratique fidèlement. On demande ces choses par le nom de Jésus. Amen.